Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Bonsoir, il est 6h avant minuit et vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab. Il fait chaud, ne vous inquiétez pas, on ne va pas s'éterniser. J'espère que vous n'êtes pas coincé dans les bouchons. Si c'est le cas, eh bien, grosse force à vous. Et on commence tout de suite avec le flash de Cali.
Une 7e démission en 10 ans au Royaume-Uni, le Premier ministre Keir Starmer a annoncé sa démission. S'il a longtemps refusé de laisser sa place, Keir Starmer attend désormais son successeur à la tête du Labour, son parti. Le prétendant numéro 1 est Andy Burnham, son rival au sein du parti. Cette démission s'explique aussi par une pression croissante d'une grande partie des députés travaillistes. Une nouvelle victoire pour l'extrême droite. Hier en Colombie, Abelardo de la Espriella a été élu président. Il s'agit d'un millionnaire avocat d'ultra-droite avec un taux de participation record. Moins de 1% des voix ont séparé le vainqueur de son opposant de gauche, Ivan Cepeda. Cepeda. Soutenu par Donald Trump durant sa campagne, Abelardo souhaite étriper la gauche et réduire les services publics. Ce dimanche, sa victoire a provoqué de nombreuses manifestations en Colombie. La mission d'inspection sur l'affaire Liana admet avoir failli et fait des erreurs. Le Premier ministre Sébastien Lecornu l'a annoncé aujourd'hui après avoir lu les premières conclusions de la mission des inspecteurs généraux de la justice et de la gendarmerie nationale. La plainte déposée en août 2025 pour viol de mineurs de moins de 15 ans n'a pas été traitée comme procédure prioritaire. Il y a eu des défaillances, notamment un retard et un manque de suivi de la procédure qui n'a pas atteint le bon service de la gendarmerie. Une nouvelle personnalité au Panthéon. Demain aura lieu la panthéonisation de Marc Bloch. Il était historien et résistant français de confession juive. Durant la Seconde Guerre mondiale, Marc Bloch s'était engagé dans la résistance avant d'être arrêté et torturé à Lyon, où il sera fusillé le 16 juin 1944. Demain, il sera panthéonisé sous la présidence d'Emmanuel Macron. De son côté, la famille de l'historien a demandé que l'extrême droite sous toutes ses formes soit exclue de la cérémonie. Aujourd'hui auraient dû se dérouler les oraux du bac de français. Or, compte tenu de l'épisode caniculaire, les épreuves de lundi et mardi sont reportées de quelques jours pour certaines zones à risque. Près de 39% des 21 300 candidats en France sont affectés par ces ajustements. Mathieu revient sur cette actualité.
Le 14 juin, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, avait déclaré sa volonté d'arrêter toute épreuve l'après-midi. Les écrits de philosophie et spécialité ont alors débuté à 8h la semaine dernière. Pour certains professeurs ayant toujours à faire des cours sous ces conditions, le ministre préconise la fermeture des établissements au cas par cas. Il renvoie ainsi la responsabilité aux autorités locales des communes. Sur le long terme, Édouard Geffray préconise une rénovation de l'isolation des établissements scolaires. Cette mesure peut sembler plus durable que la récente question des climatisations, sur laquelle Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen se sont positionnés. Alors, une meilleure isolation n'est pas une option pour chaque établissement. Environ 70% des écoles ont été construites après-guerre, entre 1950 et 1970. On a construit vite, de manière assez uniforme, et pas forcément avec les meilleurs matériaux ni les meilleures performances énergétiques, explique Guillaume Perrin, directeur de l'ACTE, en juin 2025. Actuellement, 24 millions de mètres carrés sont en rénovation. Parallèlement, Frédéric Le Turc, président de la communauté urbaine d'Arras, démontre l'impertinence de la remarque du ministre. Il faut que l'État comprenne qu'on ne peut pas avancer plus vite que la musique alors qu'il fait les poches des intercommunalités, partage-t-il à France Info. Il s'agirait pourtant d'une option durable qui éviterait les impacts écologiques et économiques encore plus massifs des climatisations. La question de l'adaptation de la vie au sein d'un établissement scolaire reste à débattre. En attendant, les élèves, les corps pédagogiques et les services d'entretien devront continuer de travailler sous de telles canicules si la commune ne se résout pas à fermer les établissements.
Merci Mathieu pour ce papier. Les conséquences de la canicule à Rennes. Météo France a placé l'Ille-et-Vilaine et toute la Bretagne en vigilance rouge. On attend jusqu'à 41 degrés à Rennes. un coup de chaud pour la grande braderie du centre-ville qui devrait avoir lieu mercredi. La maire de Rennes, Nathalie Appéré, a déjà annoncé que certaines animations n'auront pas lieu. En parallèle, la préfecture interdit la consommation d'alcool sur la voie publique, à l'exception des bars et des terrasses. Un week-end en fête à Rennes. Malgré la chaleur, la marche des fiertés a résonné dans la capitale bretonne. La marche des fiertés a eu lieu samedi, avec comme thématique l'union face aux violences. Elle est partie de l'esplanade Charles de Gaulle vers 14h après les prises par une militante, réinterprétée en langue des signes. Le retour du cortège était prévu pour 17h, suivi d'un drag show et de DJ set. L'événement a réuni près de 16 000 personnes.
Merci les gars pour votre point actu.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe. Il est midi. La radio sauvage.
Minuit. 01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Ce soir, nous recevons Loïc Villerbu et Pascal Pignol. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Vous êtes psychocriminologue, membre de la Société bretonne de psychocriminologie et psychovictimologie. Jeudi et vendredi, vous présentez un colloque intitulé « Malmenance judiciaire, analyse prospective des changements à venir, à quelles conditions et au-delà ». Pour commencer, qu'entend-on exactement par « malmenance judiciaire » De quoi est-ce qu'il s'agit ?
Excellente question. Nous parlons bien de malmenance et non pas de maltraitance. Malmenance, cela veut dire que il y a très peu souvent un accord, un conventionnement, des discussions animées entre les différents acteurs de la justice. Tout le monde sait que le magistrat, instructeur, celui qui a la responsabilité de la situation, va commander un certain nombre d'expertises, soit des psychologues, soit des psychiatres, soit des travailleurs sociaux. Mais ce qu'on constate, c'est que jamais ces différents acteurs ne se mettent ensemble pour discuter de ce qu'ils ont trouvé. Autrement dit, c'est un seul qui fait la règle de tout ça. C'est ce qu'on appelle de la malmenance. Dans la mesure où il est quand même difficile d'imaginer que l'on peut, à soi seul, produire une synthèse dynamique et une ouverture suffisante de ce qu'ont pu dire les uns et les autres. C'est ça qu'on appelle de la malmenance. Vous voyez, si on parlait de la maltraitance, ce serait de la maltraitance de personne à personne. Là, c'est le système qui dysfonctionne. Et c'est dans le système qu'il faut remédier, revoir les principaux points importants.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de ce mécanisme ? Et évidemment, on l'a abordé en début d'émission, mais est-ce que l'affaire Liana, dont on parlait énormément dans l'actualité, est un cas de malmenance judiciaire ou non ?
Ah ben oui, tout à fait, tout à fait. Je ne dirai rien sur le reste, hein. Je ne suis pas au courant. Mais tel que ça s'est déroulé, c'est de la malmenance judiciaire. Autrement dit, les dossiers sont partis d'un endroit à un autre, sont revenus. Il n'y a pas eu de communauté créée autour de cette situation-là. Ça a traîné sans arrêt. Il n'y a pas eu de systématique mise en place concernant l'auteur, puisque lui-même a été mis de côté. Bref, c'est l'exemple typique. Mais c'est cet exemple typique, bien que moins grave au niveau de la santé des uns et des autres, ou de la vie des uns et des autres, ce système-là, nous le rencontrons fréquemment.
Dans la présentation du colloque, vous évoquez des effets de survictimisation ou de surtraumatisation. Qu'est-ce que ça signifie ?
Eh bien, je vais laisser Pascal Pignol répondre.
Ces malmenances, elles ne sont pas sans conséquences sur les personnes plaignantes et impliquées dans le processus judiciaire. Ce qu'on constate, c'est que quand il y a malmenance, elles ne sont jamais entendues pleinement. Ce qui fait des effets boule de neige quant à leur souffrance déjà liée antérieurement aux violences qu'elles ont pu subir. Donc c'est un vécu d'injustice, d'incompréhension, de colère, de toutes les émotions peuvent y passer et les tentatives de restauration qu'elles peuvent essayer de mettre en place sont rendues impossibles par le désaveu auquel elles se heurtent de la part de l'institution judiciaire en particulier.
Les violences intrafamiliales, conjugales ou éducatives, elles semblent constituer un terrain d'observation de ces phénomènes. Pourquoi est-ce qu'il y a une explication à ça ?
C'est un peu le sujet qui va être au cœur du colloque, hein, les violences intrafamiliales. il y a non seulement les violences dites conjugales, mais il y a aussi les enfants impliqués dans ces systèmes-là. Avec la question du statut qui peut être accordé à leurs paroles ou non. Et qui est encore compliqué par le fait que la plupart du temps, quand un enfant victime de violences sexuelles ou de violences éducatives s'en plaint à l'un de ses parents, et que ce parent va soutenir sa parole, dans bien des cas, ça se retourne non seulement contre le parent qui est porteur de la parole de l'enfant, mais contre l'enfant. Et ça va donner lieu au quotidien. Il y a des situations tous les jours de ce type-là où l'enfant qui va se plaindre de violence, par exemple de violence sexuelle de la part de son père, va malgré tout être confié à la garde du père. Et c'est quasi quotidien. Si on lit les réseaux sociaux, il y a des dizaines et des dizaines de témoignages de ce type de situation.
Donc l'enjeu du colloque, c'est de rendre la justice plus attentive à l'individu, moins centrée sur la seule logique procédurale, c'est bien ça ?
C'est exact, tout à fait.
Parce qu'aujourd'hui, vous jugez que peut-être le système judiciaire ne met pas assez au centre l'individu dans ces procédures.
Nous, on parle de personne. L'enfant comme patrimoine est au centre, mais pas l'enfant comme personne. Il est laissé de côté. Je dis l'enfant comme patrimoine dans la mesure où ça fait partie de ce que l'un et l'autre des conjoints ont pu créer. C'est du patrimoine. Quel enfant dans tout ça ? Il y a eu des essais de clarifier le tout, qui n'ont très souvent apporté que très très peu d'éclaircissement. Je prends un concept qui a été créé il y a une quarantaine d'années, le concept d'aliénation maternelle ou paternelle. Comment mieux mettre le doute chez celui qui a à prendre une décision que de montrer à quel point l'enfant ne fait que raconter ce que la mère déjà peut dire ou que le père déjà peut raconter. Donc il est aliéné à son père, aliéné à sa mère. Donc pas crédible. Vous voyez, la personne de l'enfant, l'enfant peut ne pas être cru, mais la personne de l'enfant, qu'est-ce qu'elle devient dans tout ça ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Oui, c'est sur ça qu'on va mettre l'accent.
Selon vous, quelles sont aujourd'hui les principales limites du fonctionnement judiciaire lorsqu'il s'agit de traiter des situations humaines ?
C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, le cloisonnement des interventions et des informations. Le questionnement qui fait que vous avez quelqu'un qui est à la tête du système. Et dans le système, il y a différents intervenants disciplinaires et professionnels. Disciplinaires parce que quand on est psychologue, on ne raisonne pas comme un psychiatre. Quand on est éducateur, on ne raisonne pas comme un psychiatre ou comme un éducateur. Vous voyez, il y a des modes de raisonnement. Chacun a le sien. D'où l'intérêt. Mais l'intérêt disparaît dès lors qu'il n'y a pas de mise en commun. Quand je parle de mise en commun, je veux dire de mise en discussion des apports des uns et des autres. Et quand c'est une seule personne qui fait la synthèse de tout, qu'en est-il de l'enfant comme personne ?
Et vous avez des exemples concrets d'initiatives, peut-être, qui permettent de mieux entendre la parole des victimes ou des personnes mises en cause ?
Ah, mais oui, c'est l'objet de création continue aujourd'hui. Hein ? Je prends un exemple. Il y a une association qui vient de se créer, les naufragés de la justice, qui va indiquer, qui va montrer, qui va dire aux parents et aux personnes proches comment faire, qui aller voir, avec quel désir, quelle envie, quel questionnement, hein, quoi dire. Autrement dit, il y a des associations qui s'inventent et qui apprennent la personne en difficulté à parler au système judiciaire. Vous voyez, on apprend à parler. Hein, ce qui met alors l'un et l'autre interlocuteur plus à niveau. Et vous avez comme ça, à Rennes, les naufragés de la justice, mais vous aviez auparavant famille de féminicide. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un de la famille, femme, est morte, est décédé, est tué par ? Dans ce manuel-là, on vous dit tout ce qu'il faut faire. Ouais.
Est-ce que je peux m'autoriser juste une question ?
Sylviane, bénévole de la rédaction.
Bénévole
je t'en prie.
De la rédaction, et je suis très branché, comme plusieurs auditeurs et auditrices savent, que j'ai été dans la justice là, pendant 30 ans. Juste par rapport à cette réponse, Loïc, quid, parce que je me rappelle quand j'étais enquêtrice, la naissance des avocats des mineurs, etc. Qu'est-ce que cette association, qu'est-ce que ces associations par rapport au rôle des avocats de l'enfant, puisque les mineurs peuvent avoir leur avocat, mais oui. Chacun des parents peut avoir leur avocat. Est-ce que c'est pas un plus ou comment ça, pourquoi c'est né ça maintenant?
Parce qu'on s'est rendu compte que quand il n'y avait pas de mise en commun entre personnes qui partagent le même sort, quand il n'y avait pas cette mise en commun, il n'y avait pas de compréhension suffisante de la situation et du système dans lequel chacun se trouve.
D'accord.
Tandis pour éviter les traumatismes, les survictimisations, ben il faut donner à chacun la possibilité de parler, d'être écouté avec des personnes du même genre, qui ont traversé ou qui traversent les mêmes situations.
D'accord. Et dans la continuité de la possibilité de parler, les 25 et 26 juin se tiendront donc des colloques sur le sujet des malmenances judiciaires.
Oui.
Comment est-ce que l'événement se déroulera? Et peut-être pour commencer, qu'est-ce qu'un colloque pour celles et ceux qui ne connaissent pas le format?
Un colloque, c'est l'autorisation que l'on se donne, qu'un groupe se donne, de parler d'un thème qui fait problème sur le plan social, ou scientifique, mais ici c'est sur le plan social. Colloque, ça signifie qu'on va se donner les possibilités de parler, on va donner à chacun la possibilité de parler sur une thématique particulière. Il va pouvoir parler en son nom propre, arrêter de dire son expérience. Oui. Et c'est ce pourquoi le colloque se déroule en deux temps, le matin et l'après-midi, mais découpé de la même manière. À savoir qu'on a un conférencier, qui est un avocat, qui connaît bien son affaire. Dans la première matinée, on a un avocat qui connaît extrêmement bien son affaire aussi, ce sont les avocats rennais. Hein. Donc tout le monde est susceptible de les connaître, d'aller les voir. Hein. Et puis à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les tables rondes. C'est-à-dire qu'il y aura trois personnes qui sont spécialistes dans un secteur, dans un champ donné, qui vont parler de ce qu'ils rencontrent, et des expériences qu'ils ont pu faire, et de ce que ça a pu donner. Voilà.
Et la veille, justement, vous avez choisi super, super film.
Voilà.
On vous croit, du réalisateur Arnaud Dufaysse et Charlotte Devilliers. Charlotte Devilliers est une infirmière. Ce film est sorti, plusieurs qui l'ont peut-être vu, ce film est sorti l'année dernière. Et justement, vous en parliez tout à l'heure, l'enjeu de ce film, ça va nous mettre, la mise en scène va permettre aux spectateurs d'être comme le juge, c'est-à-dire d'entendre la parole d'un père qui est quand même poursuivi aussi pour abus, d'une mère qui doit défendre le fait que ses enfants ne doivent pas être assistés, ça va être dans le film en direct, et on va entendre la parole des enfants via leur avocat, mais hors champ. Donc c'est un film passionnant. Comment vous avez réussi à convaincre et à l'avoir, ce film? Parce que bravo pour le choix.
Pascal, à vous répondre.
Il faut remercier le cinéma Larvor.
D'accord.
Qui nous l'a indiqué et qui a accepté d'organiser une diffusion spéciale pour l'occasion. Et puis une des réalisatrices, Charlotte de Villers, qui a accepté de venir participer à la soirée débat autour de la diffusion de son film.
Donc ça, c'est jeudi 25.
Jeudi 25, 20h15, à Larvor.
D'accord.
Et on se doute un petit peu de pourquoi est-ce qu'il résonne particulièrement avec la thématique de vos colloques, mais est-ce que vous pouvez nous le rappeler? Éventuellement, on avait commencé à aborder le synopsis du film. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu le pourquoi ce choix-là?
Ça met en scène une situation tout à fait contemporaine. On a deux parents qui se disputent la garde de leurs enfants. Et la question du juge qui doit trancher, là c'est l'équivalent du juge des enfants, juge des affaires familiales.
Oui, je crois que c'est le juge des affaires familiales.
Mais belge. Et qui doit trancher entre deux discours. On a aussi retenu ce film-là parce que rien que le titre « On vous croit » soulève toute la question du statut de la parole et de la personne de l'enfant en justice. Au fond, le film nous laisse sur une incertitude. La juge laisse entendre aux enfants qu'elle les croit, mais qu'est-ce que ça va donner ? C'est bien d'entendre la parole de l'enfant, mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce qu'on va en faire ?
Et qui est invité pour ces colloques ? Justement, vous parliez tout à l'heure de magistrats, d'avocats. Est-ce que les familles également de victimes sont invitées à venir ? Qui est le public que vous attendez ?
Le colloque est ouvert. Les intervenants sont des professionnels, mais on espère bien que des personnes qui traversent ou qui ont traversé des situations problématiques de type malmenant judiciaire vont être présentes et participer, témoigner de leur expérience. Oui. Oui, c'est un de nos objectifs aussi. Pas se contenter de parler entre supposés sachants, spécialistes, mais aussi solliciter les personnes directement concernées par ces situations-là.
On est tous dans quelque chose à voir avec la justice. La justice, elle est partout, dans le droit, dans la vie de la famille, dans l'éducation. Donc c'est vrai que ce n'est pas que les éducateurs, les avocats qu'on va inviter, etc. Mais c'est la personne lambda. Ça va être passionnant. On n'a pas tout décliné parce qu'on va vous donner le lien quand même, peut-être en direct. Où est-ce que les gens peuvent s'inscrire ?
Alors, ils peuvent s'inscrire sur le site de LOASO. Et sinon, s'ils se décident au dernier moment, on prendra des inscriptions à l'Arvor le jeudi soir et vendredi matin à Antipode.
Voilà.
Donc ils pourront s'inscrire au tout dernier moment.
J'ai la chance d'avoir eu ma place et l'OASO, malmenant judiciaire.
Loïc Villerbu, Pascal Pignol, si vous deviez retenir un message essentiel à adresser aux professionnels de la justice, mais aussi aux citoyennes, aux citoyens, lequel serait-il ?
J'ai un mot à dire avant. Un tel colloque, de telles réflexions, données à entendre et à discuter à plusieurs, ça vient dire un truc exceptionnel, c'est que nous sortons de l'omerta. Nous sortons de l'oubli dans lequel s'est trouvé mis l'ensemble des dispositifs qui ne fonctionnaient pas. Maintenant, ça se sait. On peut en discuter. C'est plus interdit. Voilà. Ça, c'est le mot-clé, ça. Nous sortons de l'omerta. Mais nous sortons de l'omerta ici comme on en sort ailleurs. Hein. Regardez tout ce qui se dit sur les professionnels tout azimuts qui se sont livrés à des actes contre nature, contre expérience. Maintenant, on en parle. Avant, on n'en parlait pas. Oui. C'est devenu un sujet commun. Et si ça devient un sujet commun, c'est que les choses changent. Et donc, il faudra voir sur quoi ça va se déporter, c'est sûr. Mais là, il y a une avenue qui s'ouvre. Il faut en profiter. Ouais.
Pascal Pignol, un mot de la fin. Si vous deviez en adresser un aux professionnels de la justice, aux citoyennes, aux citoyens.
Je crois que nous sommes tous en pleine crise et qu'il s'agit bien d'inventer de nouvelles voies. Et c'est une question de société. Nous sommes tous concernés par ça et ça ne peut pas être le seul fait de la justice. C'est le fait de toute la collectivité qui est en jeu ici.
Eh bien, merci.
Il y a un autre mot-clé. Je voulais absolument pouvoir le dire. C'est qu'aujourd'hui, vous aurez toujours à côté de chez vous une association qui viendra vous en aide. Hein? Et l'intérêt de ces colloques-là, c'est de dire à quel point ça existe, ces associations d'aide. Donc comment ça peut se communiquer, comment ça peut se parler. C'est l'intérêt de tel colloque. Oui.
Merci beaucoup, Sylviane.
Oui, c'est pas une histoire d'avoir le dernier mot, c'est simplement de vous dire « je vous crois ». Je pense que ça va être chouette, ça va être un beau colloque. Donc allez-y, inscrivez-vous à LOASO, malmenance judiciaire. Mais voilà, le dernier mot, c'est à vous pour vous dire au revoir.
Merci beaucoup Loïc Villerbu, Pascal Pignol et Sylviane d'avoir été avec nous ce soir. Loïc Villerbu, Pascal Pignol, vous êtes psychocriminologue, membre de la Société bretonne de psychocriminologie et psychovictimologie. Pour rappel, le colloque sur ces deux jours se passe pour la projection du film On vous croit jeudi à 20h15 au cinéma Arvor et le vendredi à 9h et 17h à l'Antipode.
6h avant minuit. 6h
avant minuit.
Le 11 juin dernier, CES proposait une chronique dans la sauce avec un concept de taboulé sans cuisson pour survivre à la première vague de chaleur de l'été. Alors pour la seconde vague, on peut s'attendre à une chronique un poil plus salée.
C'est bon ? Tout le monde a mangé du taboulé zéro cuisson pour reprendre des forces ? C'est super ! J'entendais ce matin même le journal RFI interviewer des gens sur leur stratégie, attention, ouvrez les guillemets, non pas de citation, mais de scepticisme, leur stratégie donc d'adaptation. Machin parlait d'installer l'air conditionné dans sa maison, Machine racontait qu'il y avait 10 degrés en moins sur le bord de mer, et donc c'était l'occasion d'une petite retraite. En parlant de retraite, la réforme de celle-ci s'est vue accompagnée de la suppression de 4 des facteurs de pénibilité au travail. Si les températures extrêmes y figurent toujours, imposant quelques mesures d'adaptation des postes de travail par l'employeur, les syndicats dénoncent l'absence de mesures urgentes. Dans son communiqué du 21 juin 2026, la CGT pointe du doigt les manquements suivants. Aucune température maximale de travail définie. Aucun renforcement du droit de retrait. Aucune interdiction explicite de faire travailler dans des locaux à 40 degrés l'été. Pourtant, il existe des recommandations officielles en la matière. L'Institut national des risques professionnels juge dangereux un travail physique au-delà de 28 degrés et sédentaire au-delà de 30. Fin de la parenthèse droit du travail, revenons-en à nos casseroles. Pourquoi je suis aussi sceptique sur le terme adaptation ? Vous vous rappelez de la séquence de Serge Zaka à France Inter ? Mais si, l'agroclimatologue, celui de l'Hérault, le mec avec un chapeau à plumes là ! En mars, il nous alertait déjà.
Il faut être clair, après 2050, quand vous regardez le rapport France plus 4 degrés, on atteindra entre 45 et 50 degrés dans plusieurs régions françaises, ce qui veut dire que ce sera de la mortalité des arbres qu'on aura. C'est pas juste de l'adaptation, c'est pas possible.
Il y a des limites infranchissables pour les végétaux.
Des limites biologiques, et c'est ce que je veux dire, c'est que le changement climatique, souvent on dit aux agriculteurs, allez, vous allez vous adapter, vous allez mettre des arbres, travailler sur un sol plus vivant, parfois mettre de l'irrigation, parfois mettre des réserves en eau pour l'irrigation, mais... Il y a un moment, si vous irriguez du maïs et qu'il fait 47 degrés, le maïs, il est mort. Il faut comprendre que la meilleure façon d'adapter notre agriculture, après 2050 dans le sud et après 2060-70 dans le nord, c'est de limiter les gaz à effet de serre pour éviter ces températures. Ce n'est pas possible de trouver une race de vaches laitières ou alors un arbre qui s'adapte à 50 degrés, ouais. Même une seule journée, hein. Ça peut tuer un végétal.
L'autre vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux alors que la France passe la barre des 40 degrés, c'est la vidéo de Marie Chureau, activiste écologique, anciennement membre du mouvement Love for Climate France. Un petit extrait de cette vidéo qui a recueilli 137 000 likes en 24 heures.
Moi ça me rend ouf, parce que pendant que Macron il nous recommande de boire de l'eau, je rappelle quand même qu'il a donné la Légion d'honneur au PDG de Total, et que le gouvernement vient de couper 163 millions d'euros sur le fonds vert, qui est le seul budget qui sert à adapter les écoles, les hôpitaux, les villes à la chaleur. Ah, et d'ailleurs ce budget qui est dédié à la transition écologique, il a déjà été coupé de 300 millions cet automne dans le budget de l'État, grâce aux socialistes qui ont voté. C'est pas des gestes individuels à base de « on va mettre des clims partout qui va tout changer ». Non, il faut des politiques structurantes qui s'attaquent aux causes concrètes du réchauffement climatique, donc à savoir les multinationales fossiles par exemple, et des politiques qui réadaptent intégralement la société pour nous protéger.
Et tant qu'on est sur Instagram, le parti politique European Greens publiait quelques recommandations sur son compte pour faire face à cette seconde vague de chaleur. Extrait choisi. Évite l'alcool et l'exposition directe au soleil. Tout comme les politiciens d'extrême droite évitent de lutter contre la crise climatique. Ou encore, ouvre la fenêtre avant d'aller au lit. Et demande à tes élus de rénover l'isolation des bâtiments. Mais bon, puisqu'une pétition sur la plateforme de l'Assemblée nationale qui rassemble pas moins de 2 millions de signatures, ça ne suffit pas pour empêcher le Sénat de recycler la loi du plomb en intégrant un amendement pour réintroduire les néonicotinoïdes au texte de la loi Urgence Agricole, bah peut-être que demander c'est pas assez. Alors bien sûr, je vous encourage à vous rendre sur les plateformes telles que checktonpolitique.org pour suivre le calendrier législatif et continuer à interpeller nos chers élus de la République. Mais perso, je pense qu'il est l'heure de ressortir les casseroles si on veut pas finir comme Hansel et Gretel.
Plus 1 degré, ça chauffe, ça chauffe. Plus 2 degrés, ça chauffe, ça chauffe. Plus 3 degrés, ça chauffe, ça chauffe. Pour chaque degré, on lutte et ça va payer.
Et oui, ça chauffe, ça chauffe. Merci, CES, pour tes recommandations. Et puis nous, on va pas tarder à se rentrer chez nous aussi pour s'envoyer des gros Mr Freeze dans la face. Mais juste avant, Mathieu, est-ce que tu veux bien me décrocher le répondeur, s'il te plaît ?
Je décroche le répondeur.
Et il y a juste un petit PAD d'abord que je vous envoie maintenant. La chaleur me tape sur la tête.
Pour cette exposition, on a voulu... Les,
transformer le lieu à la fois en salon d'amis et en salle des fêtes. Donc vous avez un salon de lecture où, en fait, dans lequel on propose les éditions de La Criée, donc qu'on publie depuis 40 ans, et puis les éditions des artistes que vous voyez sur les murs. L'idée aussi, c'est de partager la fabrique de l'art et notre quotidien qui est d'être au plus près de l'art et des artistes, et cette magie de composer soi-même les expositions. Et donc, les murs sont mobiles. Vous accrochez la poignée par le mur directement et vous le placez où vous voulez. Donc, il y a 12 panneaux qui sont des commandes. Donc, ce sont que des œuvres conçues ou reconçues spécialement pour l'exposition. Et là, vous pouvez aussi jouer. Donc, quand vous avez composé votre exposition en grandeur nature, vous pouvez aussi la refaire en miniature à partir de ce jeu qui s'appelle Rejouer la criée. Tout est à roulette dans les mobiliers là, du salon de lecture. Et le jeu, donc on peut tout enlever et puis accueillir des propositions. Par exemple, là, on va faire un partenariat autour de l'artiste Johanna Rocard avec les Tombées de la nuit, les 3 et 4 juillet prochains. Ou encore avec le CCRNB dans le cadre du festival Underground en octobre. Bienvenue, c'était aussi inviter nos partenaires anciens, enfin fidèles ou nouveaux, et divers et variés tout au long de l'exposition. Donc il y aura toute une programmation événementielle. Il y aura aussi des ateliers qui pourront se tenir dans l'espace avec là, ben voilà, ça c'est vraiment l'espace atelier qui va s'agrandir des productions des participants au fur et à mesure de l'expo. Ce que je n'ai pas dit, c'est que tout le mobilier était l'œuvre du designer Guénolé Jézékel et l'atelier Jazz. L'un des buts de cette exposition par rapport à cette époque multicrise qu'on traverse, qui touche la création, mais qui nous touche tous à différents, en tant que citoyens, citoyennes, à différents endroits, c'est aussi d'offrir un espace où toutes et toutes vous êtes les bienvenus, en jouant, en s'attablant, en se posant dans des canapés, et puis prendre le temps de partager ce lieu.
Merci Anna. Et il s'agissait de la directrice de La Criée, Sophie Kaplan, qui nous en disait un petit peu plus au micro de Anna. Et j'ai un blocage sur mon lancement et mon pied. Timothée qui vient en héros me sauver. Désolé pour les problèmes techniques. C'est absolument pas moi, ce sont les 40 degrés. L'exposition Bienvenue à La Criée est à découvrir gratuitement jusqu'en décembre à Rennes. N'hésitez pas à venir jouer, à investir le lieu. Toute la programmation est sur le site de La Criée. Et cette fois, Mathieu, je te laisse décrocher le répondeur.
Alors, je vais décrocher le répondeur.
Ah, le téléphone.
Allô, allô.
Syllabe, la radio sauvage.
Il n'y a pas de message.
Nul, nul, nul. Mais appelez, je vous répète, le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. N'hésitez pas à venir nous parler de votre vie, de ce que vous aimez ou pas, de ces temps, de ce temps, de la chaleur extérieure ou alors de tous les flops que j'ai enchaînés dans cette émission. En tout cas, merci Timothée pour la technique et à demain dans 6 heures avant minuit.
Ça va, c'est la chaleur.
Exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure très
bien. 6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit. 18 heures, 19 heures, sur Syllabe,
la radio sauvage.